Voilà, nous allons démarrer cette soirée qui s'appelle donc que sont devenues les névroses de transfert.
Non,
c'est la fois
dernière.
Ça commence
mal. Il y a déjà eu lieu
celle-là.
C'est la dernière fois.
Guéritons. Ah, guéritons. Pourquoi dire ça? Oui, mais en fait, c'est dans le vaste.
C'est le vaste.
Aujourd'hui.
Voilà, aujourd'hui, c'est est-ce qu'on en guérit? Très intéressant, vous allez voir. Donc nous avons trois AME de l'école. Je vais être présentée, mais pas besoin de présenter. Qui vont parler dans cet ordre suivant. D'abord Patrick Barillot sur la névrose obsessionnelle. Avec cette question, passer d'une conception de l'inconscient langage à celle de l'inconscient réel, change-t-il le traitement de la névrose? Il y aura une petite illustration, si on peut dire, de la question avec la névrose obsessionnelle. Mmh. Ensuite, Jean-Jacques Gourog, qui va parler des symptômes aux symptômes, et qui nous annonce d'emblée qu'on peut guérir de bien des choses, mais qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Sinon, point de suspension. Donc on verra sinon quoi.
Ne vous inquiétez pas, je pense que
c'est dommage. Parce que je n'ai pas lu le texte de Jean-Jacques, hein, vous vous en doutez, il est arrivé. Et Colette Soler conclut les interventions, en tout cas, avec cette question clinique actuelle de la névrose. Voilà, s'il s'agit de la clinique psychanalytique, puisque des cliniques, il y en a plusieurs, est-ce que c'est celle de l'époque dans laquelle bien des choses changent en effet, ou bien celle portée à ses dernières conséquences par les étapes ultimes de l'enseignement de Lacan, dont nous tâchons de nous orienter? Nous tâchons, c'est déjà une hypothèse. Patrick, à toi.
Alors, guérit-on de la névrose? Donc, la question ainsi posée laisse à penser que la névrose serait à soigner jusqu'à la guérison. Alors, la réponse est fonction de la définition de la névrose et de la guérison. Si nous pensons la névrose comme un avatar du sujet, nul chance de pouvoir la guérir, et cela n'exclut pas d'en traiter les symptômes. À cette question, précisément Lacan 78, en clôture d'un congrès de l'EFP sur la transmission, répondait que oui, que c'était un fait qu'il y ait des gens qui guérissent de leur névrose. La question étant, comment se fait-il que par l'opération du signifiant, on en guérit? Alors c'est par le biais de la névrose obsessionnelle que je vais prendre la question de ce que la psychanalyse peut traiter ou même se doit de traiter dans la cure. Alors là, c'était ambitieux quand j'ai commencé à écrire. vous allez voir que je pose la question, mais pas les réponses. J'ouvre. Alors, si je me suis intéressé à cette névrose, c'est en raison d'un grand nombre de nouveaux cas venus me trouver ces derniers temps. Alors, il a été souvent avancé dans les séances précédentes de notre séminaire que les formes sous lesquelles se présentent nos deux formes de névrose, l'hystérique et l'obsessionnelle, ne correspondent plus aux formes cardinales décrites dans la littérature analytique de Freud à Lacan, et aussi qu'il faut du temps pour en assurer le diagnostic. Paradoxalement, en ce qui concerne la névrose obsessionnelle, je me faisais la réflexion inverse. C'est-à-dire que les symptômes de cette névrose me semblent assez immuables dans le temps, insensibles au discours d'une époque comme aussi bien d'une culture, à la différence de l'hystérie dont la symptomatologie est dépendante de son contexte. L'obsessionnel, lui, ne cache pas ses symptômes. Il les livre facilement à celui qui veut bien l'entendre. Ces symptômes, avant Freud, puisque c'est à lui que nous devons l'invention nosologique et nosographique de la névrose obsessionnelle, étaient regroupés sous le titre de folie du doute avec délire du toucher. Le doute, la phobie du toucher, les obsessions et les compulsions, que Freud requalifie de Zwangsneurose, névrose de contrainte, sont toujours repérables dans la névrose obsessionnelle, même s'ils n'y sont pas tous présents. Et quant à la prédilection du sexe masculin pour cette névrose, je dirais que les femmes y sont très bien représentées. À la question, y a-t-il encore des névroses ? Il est certain que la névrose obsessionnelle répond présent. Nous ne sommes plus à l'époque de Freud où, comme il le disait, des névrosés obsessionnels qui se présentaient à l'analyse bien plus rarement que les hystériques. Donc, à notre époque, les névrosés obsessionnels n'hésitent pas à se présenter à l'analyse. Et c'est peut-être en ce sens que Lacan disait, toujours dans cette clôture de congrès, je cite, qu'il n'était pas très sûr que la névrose hystérique existe toujours, mais il y a sûrement une névrose qui existe, celle qu'on appelle la névrose obsessionnelle. Peut-être que ça tient à sa symptomatologie. Alors après cette introduction, j'en viens à la question de ce qui se traite, ce que Saint Hildegarde peut l'aborder, et comment dans cette névrose, et je partirai non pas du cas de l'homora, incontournable, mais de ce que Lacan peut dire de son traitement analytique par Freud. Freud nous indique que le traitement de ce cas étalé sur une année aboutit au rétablissement complet de sa personnalité et à la disparition de ses inhibitions, à sa guérison en somme, même si il note que le succès thérapeutique ne lui permet pas de pousser l'analyse aussi loin qu'il l'aurait voulu, lui Freud, particulièrement sur l'analyse des fantasmes de son patient. Ça, c'est dans le, c'est noté dans le cas de l'homora. Et dans une note plus tardive, en 1923, il ajoutera que son patient fut tué pendant la Première Guerre mondiale. Alors, sur ce point, dans la direction de la cure, Lacan avance que contrairement à l'idée de Freud, l'homme aura n'était pas guéri. Et d'ajouter qu'il ne croyait pas que l'analyse soit pour rien dans sa fin tragique. Alors ça m'a arrêté parce que j'ai trouvé que c'était une affirmation assez radicale. Et je me suis demandé sur quoi Lacan pouvait s'appuyer pour être aussi affirmatif. Chose un peu troublante, il affirme qu'il serait mort au champ de bataille, alors que d'autres auteurs qui ont travaillé la question disent qu'il serait mort, notre homora, des suites du typhus contracté derrière les lignes russes où il était prisonnier. C'est moins héroïque. Alors dans ce texte de la direction de la cure, on trouve bien une critique de l'interprétation freudienne axée sur l'Oedipe avec la figure du père castrateur, interprétation qui revient à plusieurs reprises dans la cure, dont celle de l'interdiction que le père aurait faite aux amours de l'homora. Interprétation que Lacan dit inexacte, mais pourtant vraie en ceci qu'elle devance ce que lui-même va développer de la fonction de l'autre dans la névrose obsessionnelle. Cette fonction de l'autre, d'être tenu par un mort, et que le père du patient, mort réellement, incarne au mieux, rejoignant ainsi la position que Freud assigne au père absolu. Mais, en dehors de ça, je n'ai pas trouvé rien de plus sur ce qui aurait manqué dans l'analyse de l'homme. Alors, il me semble que la justification de cette affirmation de Lacan se trouve dans un texte antérieur qui est « Fonction et champ de la parole et du langage », dans lequel il critique déjà l'insistance de Freud à faire usage de la fonction castratrice du père dans la genèse de la névrose. Donc cette justification, on la trouve dans l'interprétation d'un rêve du patient, donc patient qui, après avoir croisé une jolie fille dans l'escalier de la maison de Freud, qu'il prie pour sa fille, la fille de Freud, s'imagina que Freud souhaitait la lui voir épouser. Il fit dans la suite un rêve où il voyait la fille de Freud devant lui, mais elle avait deux morceaux de crotte à la place des yeux. Freud interprète ce rêve à partir de l'équivalence fesse-argent. Donc le rêve qu'il déchiffre ainsi, il épouse ma fille non pas pour ses beaux yeux, mais pour son argent. Lacan, lui, ne déchiffre pas l'expression allemande qui est zwei Dreckpatzen, comme deux morceaux de crotte, puisqu'il interprète autrement ce rêve de transfert avec la fille imaginaire que le patient se doit d'épouser. Dans le rêve, dit-il, se dévoile le vrai visage de la promise, celui de la mort qui le regarde de ses yeux de bitume. Alors, il y a une question que je me suis posée. Où Lacan va-t-il puiser les ressorts sémantiques pour déchiffrer ainsi ce rêve? Il y a un petit mystère, parce que selon les traducteurs des notes de Freud dans le journal d'une psychanalyse, ce terme de Dreckpatzen signifie boule d'excrément de saleté, mais les yeux de bitume et la mort, on ne voit pas trop le lien. Néanmoins, Lacan ajoute que la réalité, celle du patient, ne lui aura pas fait défaut pour combler les épousailles de ce pacte symbolique et que sa fin tragique conclut le cas avec la rigueur du destin. Cette union avec la mort que le rêve dévoile trouve donc à se réaliser avec la mort de Lohengrin lors de la Première Guerre mondiale. On ne peut manquer de mettre ce funeste destin en lien avec ce qu'il développe de la position d'obsessionnel dans la dialectique de son rapport au maître, qui est celle d'accepter de travailler pour le maître, dans l'attente de sa mort, et entre-temps de renoncer à la jouissance. On sait combien l'obsessionnel s'absente de sa vie, il n'y est pas. C'est ainsi, poursuit-il, qu'étant dans le moment anticipé de la mort du maître, à partir de laquelle il vivra, dans cette attente, il s'identifie à lui comme mort, et moyennant quoi, il est lui-même déjà mort. Donc, rigueur du destin pour l'homme au bras. Alors, je me suis demandé si 20 ans plus tard, on est en 56, après avoir défini l'inconscient comme réel et non plus comme langage, si Lacan se serait autant avancé à partir du déchiffrage d'un rêve sur le destin que prescrit l'inconscient. Lui qui, en 76, dans sa préface à l'édition anglaise du Séminaire 11, amène une autre définition de l'inconscient, celle de l'inconscient réel. Définition qui est appliquée aux symptômes, dit que quand le signifiant 1 du symptôme n'a plus de portée de sens, alors seulement on est sûr qu'on est dans l'inconscient réel, qui est l'inconscient joué. Ainsi convoqué, l'inconscient réel vient comme en opposition à l'inconscient supposé par le transfert, celui du déchiffrage, puisque sur le symptôme et sa jouissance opaque, il dit qu'il n'y a d'éveil que par cette jouissance-là, sous-entendu, d'éveil du songe, du sens. Alors, avec cette boussole, cette conception du symptôme comme événement de corps qui implique que le symptôme ne vient plus du langage mais d'un événement de jouissance du corps vivant, j'ai relu le cas de l'homme au rat. Alors, je l'ai relu à partir des deux textes qui sont remarques sur un cas de névrose obsessionnelle sous-titré l'homme au rat et l'autre texte qui est passionnant, qui est le journal d'une analyse, qui sont donc les notes prises par Freud pendant la première partie du traitement. Et ces textes sont tenus par Lacan comme la Bible de la névrose obsessionnelle. Alors, effectivement, c'est une Bible parce qu'on y trouve toute la richesse de la clinique obsessionnelle. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que la façon dont la clinique était écrite à l'époque se retrouve, on peut dire que sans grande variation à la nôtre. Et dans ce cas précis, celui de Mora, on y voit comment le signifiant rat, dont Freud fait le nom de symptôme de son patient, Rattenmann, vient, et là c'est mon hypothèse, comme ce qui s'écrit du corps parlant, et bien avant la rencontre avec le capitaine cruel et son supplice des rats. Alors, ce qui s'écrit, ce sont les conditions de la jouissance, à savoir les éléments de la langue mis en usage par la parole, et dans l'inconscient qui parle sans sujet, par le corps, puisque ce qui s'écrit est à prendre comme un autre mode du parlant. Ça, c'est une référence qu'on trouve dans la postface au séminaire 11. Donc, ce qui s'écrit est à prendre comme un autre mode du parlant. Comme l'écrit Freud, le destin, un autre homme, lui avait lancé un mot auquel son complexe était sensible. Châtiment par les rats réveilla l'érotisme anal, dit Freud, nous dirions sa jouissance de corps, qui avait joué dans l'enfance, l'érotisme anal, un grand rôle alimenté durant de longues années par des vers intestinaux. En effet, les rats grouillaient dans le rectum comme le faisaient les vers quand il était enfant. Freud, sensible au poids des signifiants et à l'homophonie, à un moment de la cure, suspecte son patient d'avoir eu l'habitude de se fourrer le doigt dans l'anus. J'ajoute que c'est certainement en raison du prurit provoqué par les vers. Se fourrer ses doigts dans l'anus, ça se dit afterborer, foreur d'anus, terme qui est à rapprocher de la description de l'introduction des rats qui pénétraient en vrille dans l'anus du supplicié, qui se dit sich einbohren, littéralement se fourrer dedans. Cette supposition de Freud se vérifiera lorsque le patient reprochera à Freud son Nasenbohren, c'est-à-dire de se fourrer les doigts dans le nez. Alors, sur cette question de ce qui s'écrit par la parole de l'analysant, Lacan nous dit que ce qui se produit d'anorthographique dans cette parole n'est jugeable qu'à prendre la fonction de l'écrit. Il me semble que ce que Freud nous rapporte du cas en témoigne. Il nous dit que le patient s'était constitué un étalon monétaire en rat. Dans le texte du cas, donc dans celui qu'on retrouve dans l'examen psychanalytique, ça se traduit de cette façon, tant de florins, tant de rats. Où Freud explique que les rats acquièrent la signification de l'argent et que ce rapport des rats à l'argent s'exprima par l'association cote-part et rat. Alors, dans le texte des cinq psychanalystes, on ne comprend pas trop. En fin de compte, cote-part, ça se dit rate et rate. Freud, lui, il voit la concentration du rapport du patient à l'argent rattaché à l'héritage paternel, rapport qui est en plus renforcé par les mots du capitaine sur la dette à payer et du jeu de mots Spielrate qui renvoyait au père, ce dernier ayant perdu au jeu une somme d'argent et s'était conduit donc comme un Spielrate qui est un terme méprisant. Après, il y a de longues interprétations sur la question de la dette. Alors, l'intérêt que j'ai eu à lire les notes de Freud est qu'on y apprend qu'au début de l'analyse, à propos des honoraires dus, Freud avait entendu et noté que son patient disait, pour chaque couronne payée, un rat, en allemand, donc, rateux pour les enfants. Or, l'intention de signification du patient était autre. Pour chaque couronne, une part pour les enfants. Donc la part, c'est rateux. Donc, touche jouée sur le sonore. Le patient, dans un effort de bien parler, ce qui souligne Freud comme étant aussi caractérise la névrose obsessionnelle, le côté de bien parler qui mène parfois avec un langage un peu pédant, voire un peu empoulé, et se basant sur la racine latine du mot. Donc il parle, la parle, avec un T, le prononçait, lui, comme rat. C'est-à-dire avec deux T, comme le rat. Puisque dans l'un cas, il y a un A qui est long, et dans l'autre cas, le A est bref. Alors, peut-on parler d'homophonie anorthographique ? Question. Donc ces exemples, conclure, me paraissent illustrer qu'au-delà de ses obsessions, de son scénario de jouissance du supplice qu'il applique dans ses fantasmes à sa dame et son père, symptômes de jouissance directement noués à son histoire de sujet, sont aussi présentes des modalités de jouissance autres que celles liées aux pulsions. Celles qui relèvent de l'inconscient réel, qui de sa langue marquent la jouissance du corps, donc modalités qui ne dépendent pas du sens, mais qui sont le produit de la coalescence, comme il dit, d'un élément de la langue et d'une jouissance de corps, et que l'analyse, en tant qu'elle vise la jouissance, se doit de toucher. Je m'arrêterai là.